France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue dans les midis de culture. Nous allons partager ensemble 1h30 d'actualité et de culture. À 13h, je recevrai la romancière Chimamanda Adichie, mais avant, place à l'esprit critique. Et ce sont deux mangas qui nous occupent aujourd'hui. Dementia 21, tome 1 et 2 de Shintaro Kago, publié chez Hubert, nous propulse dans un troisième âge absurde et terrifiant. Et nous ferons place à la nostalgie et à la douceur avec The Song About Green, volume 1 et 2 de Gao Yan, qui est sorti chez Casterman. Et pour nous en parler et nous guider dans ces mangas, Fausto Fasulo, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du festival d'Angoulême. Et Pauline Croquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, à la rubrique Pixel. Bienvenue à tous les deux. N'ayez pas peur, nous commençons avec Dementia 21 de Shintaro Kago, récompensé au dernier festival d'Angoulême. Alors Yuki Sakai est une aide à domicile dévouée qui assiste les personnes âgées avec enthousiasme. De cette situation ordinaire découlent des aventures de plus en plus surréalistes. Notre héroïne doit faire face à des situations dérangeantes, voire effrayantes. Vieille femme tyrannique, dentier doté d'une IA, ride qui amène dans d'autres dimensions spatiales ou encore l'origine de la guerre entre les petits-enfants et leurs grands-parents. Fausto, en quelques mots, un premier avis sur Dementia.
Un sacré inventaire à la Prévert, n'est-ce pas, hein? Écoutez, quoi de plus terrifiant, j'ai envie de dire, qu'une apocalypse gériatrique, puisque c'est exactement ce que nous propose Shintaro Kago, avec son ironie habituelle, avec son talent graphique évidemment, et puis avec ce goût très prononcé pour le brisage en règle des tabous de la société japonaise, et notamment celui du troisième âge. Donc c'est une œuvre qui est à la fois extrêmement ludique et en même temps terriblement consciente.
Pauline, votre premier sentiment de lecture ?
Pareil, j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière si on ne connaît pas Shintaro Kago, parce que c'est quand même un auteur difficile à aborder. C'est quelqu'un, moi je qualifie souvent de travailleur de la terreur ludique, c'est-à-dire qu'on a, c'est de l'horreur, on peut avoir des mutilations, des corps démembrés, on peut avoir plein de concepts poussés jusqu'au bout graphiquement, mais là ça se prête terriblement au sujet puisque il explore en fait on a toutes les itérations en fait graphiques et conceptuelles sur un même sujet, donc je trouve ça très intéressant. Et puis on va dire que c'est à la fois le sujet de société et assez effrayant. C'est pas tant finalement ce qu'il dessine qui est effrayant, sinon ce sujet en fait qui occupe le Japon.
Alors Fausto, peut-être vous pourriez nous présenter en deux mots l'auteur. Que représente-t-il dans l'univers des mangas et comment Dementia s'inscrit dans son œuvre ?
Shintaro Kago, c'est quelqu'un qui évolue dans un réseau que je ne qualifierais peut-être pas tout à fait d'alternatif, mais c'est pas non plus l'un des auteurs les plus célèbres au Japon. C'est quelqu'un qui a régulièrement fait la navette entre des magazines de prépublication, donc là où sont publiés en premier lieu les mangas au Japon, des magazines de prépublication plutôt grand public et d'autres, on va dire, plutôt de niche, plutôt spécialisées. Et c'est quelqu'un qui très vite, et ça je pense que c'est très important de le dire, a affirmé une certaine indépendance. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup à l'étranger aujourd'hui, qui se déplace seul par ailleurs, donc il fait beaucoup de conventions. Il est venu à Angoulême récemment, il n'était pas du tout accompagné de son éditeur, alors qu'habituellement les auteurs japonais ne partent pas comme ça en fait de leur terre natale sans être accompagnés par un responsable éditorial. Donc lui c'est quelqu'un qui travaille seul, en toute indépendance, qui aime ça je pense, qui est à la fois industriellement dans le milieu mais qui en même temps a fait quand même un petit pas de côté pour pouvoir faire ce qu'il avait envie à côté. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui réalise par ailleurs de nombreuses illustrations. On peut lui commander des dessins. Alors, pour l'anecdote, il peut réaliser votre portrait dessiné à la manière d'eux. Donc avec...
Ça fait un petit peu peur quand on voit les dessins qui sont dans le manga.
C'est assez rigolo et c'est en cela qu'il est d'une certaine manière plutôt accessible en réalité et plutôt chaleureux. Moi je l'ai déjà interviewé, en revanche quand on le soumet à la question c'est autre chose, c'est pas quelqu'un qui aime trop parler de son travail.
Donc vous direz que Dementia 21, là, le livre dont on parle, fait vraiment partie de sa grammaire à la fois picturale et comme textuelle.
Comme le disait très justement Pauline, effectivement c'est probablement l'un de ses bouquins les plus accessibles. Parce que les moins extrêmes, disons-le très clairement, c'est quelqu'un qui a travaillé effectivement une matière érotique grotesque avec tous les excès que ça peut comporter, et parfois aussi avec des thématiques qui étaient peut-être un petit peu moins sociétales. Là, je pense que si le bouquin a gagné à Angoulême, c'est justement parce que ça a percuté, on va dire, le jury avec cette thématique un petit peu engagée.
Pauline, est-ce que vous pourriez nous parler du dessin, justement ? Comment le qualifieriez-vous ? Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça fait peur ?
En fait, moi, quand je regarde du Shintaro Kago, parce que je lis pas tant, parce que finalement, c'est pas quelqu'un qui fait primer la narration. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut lui faire. Il fait pas primer la narration. C'est vraiment d'abord la représentation graphique. Et moi, quand je regarde un Shintaro Kago, je me retrouve un peu comme face à un Dali, à un Escher ou un Bosch. C'est-à-dire que, de prime abord, ça semble un peu... c'est grotesque, c'est voire un bizarre, dérangeant, peut-être presque dégoûtant parfois. Mais une fois qu'on regarde un petit peu, on a plein de petits détails. On a notamment, dans ses obsessions, il y a une forme de géométrie, des alignements, des répétitions, des effets de nombre. La foule, c'est
ce qu'on voit dans les premières pages, avec notamment les petits-enfants face à ce grand-père.
Oui, ou même, on a une histoire comme ça, où on a, en fait, l'aide à domicile arrive dans une maison où il y a 3 grands-mères, et puis le lendemain, il y en a 6. Et en fait, on s'aperçoit la chute de l'histoire, de cette histoire à l'intérieur de la série. C'est finalement c'est devenu une décharge pour personnes âgées. Elles se retrouvent comme ça, submergées par un nombre de corps entassés. Donc il y a ça. On a aussi les corps coupés. C'est quelqu'un, alors parfois de façon très clinique, on a souvent des coupes comme ça, transversales, de tête. On a aussi le
gigantisme. Des vues anatomiques, quoi.
Tout à fait. Mmh. On a aussi le gigantisme. Il aime bien dessiner des très grandes femmes. On le voit notamment dans les illustrations intercalaires, en fait, des chapitres.
Psychanalytiquement, c'est intéressant. Il aime bien dessiner de très grandes femmes.
Voilà, en tout cas, on retrouve ça. Et
c'est cette assistante à domicile qu'on voit parfois, oui, sur une pleine page.
Et on voit aussi dans sa tête, c'est-à-dire il donne à voir dans la tête. On a parfois des échelles, on a parfois des coupes anatomiques, on a des mises en abîme aussi. Donc c'est très géométrique, c'est presque, il y a parfois presque de quelque chose qui va chercher du côté de l'illusion d'optique. C'est hypnotisant, en fait, Shintaro Kago. Mais moi, toujours, au final, ce que je reproche, voilà, je m'amuse beaucoup à le regarder. Alors, un peu moins sur ces thématiques érotiques, Eroguro, que je trouve, moi, enfin, en tout cas, moi, qui me convainc moins. Mais, par contre, sur la narration, ça pêche un peu. C'est-à-dire que là, Demencia, c'est très intéressant parce qu'on a cette répétition, en fait, on sent que le Japon ne sait pas trop quoi faire de ses vieux, il y a un peu de ça. Et en face, pareil, on a une aide à domicile qui n'est pas non plus totalement dévouée, puisqu'il y a une forme d'ubérisation au départ de l'aide à domicile, et elle cherche à avoir de très bonnes notations, qu'on lui mette des likes à la fin de ses prestations, et c'est ce qui la pousse à persévérer face à ces cas très compliqués. Et tout ça, en fait, montre quand même... à la fin, on n'en sort pas vraiment de tout ça.
Fausto, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que cet aspect sociétal, il est traité dans ce livre-là ? Dans la narration ?
Oui, complètement. Moi, je serais peut-être un petit peu moins dur que toi. Après, c'est vrai que, sachant que ce sont que c'est une succession d'histoires courtes, donc, qui ont pour fil
rouge... D'où l'inventaire, l'après-verre.
Voilà, ouais, qui ont pour fil rouge cette aide médicale à domicile, donc Yuki Sakai. Donc, de fait, il y a des chutes qui sont plus ou moins réussies, selon les histoires. Moi, ce que je trouve vraiment très, très intéressant chez Kago, et qui le différencie peut-être d'autres auteurs d'horreur. Par ailleurs, lui, il n'est pas très à l'aise avec l'étiquette, il ne se considère pas comme un auteur d'horreur. Pour moi, c'est vraiment l'humour. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément à la mécanique du gag. L'une de ses grandes références en termes de dispositif visuel, c'est Jacques Tati et les Monty Python. Voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, a emprunté aux Monty Python, justement, tout leur goût de la cruauté, en fait, de cette espèce d'humour un peu noir, un peu piquant. Et on retrouve ça dans ces mangas. C'est quelqu'un aussi d'extrêmement cinéphile. Il y a plein de citations assez sympathiques dans le bouquin, à Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, à Scanners de David Cronenberg. Donc, il compose à la fois avec ses propres marottes. Il y a vraiment ce souci de la mise en scène du gag et de la chute efficace. Et tout ça, en fait, fait que il n'est vraiment pas un auteur comme les autres, et on pourrait difficilement le cataloguer, je pense, dans le carcan des auteurs d'horreur comme Junji Ito, Soihiro Maruo, enfin voilà.
Mais alors, comment on pourrait le qualifier si c'est pas un auteur de genre?
Pour moi, c'est vraiment un auteur d'humour. En fait, c'est pour moi vraiment la clé de voûte, en fait, de son travail, c'est l'humour. C'est très très rare, en fait, de lire un Shintaro Kago sans sourire. On rit pas aux éclats non plus, en fait, mais il y a quelque chose du rictus un petit peu gêné. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à la lecture de tous les Kago.
Pauline, vous êtes d'accord sur ce côté humoristique ?
Il s'amuse, en fait. C'est pour ça que j'aime bien parler de terreur ludique, parce qu'il aime bien déranger, voire... Alors, effectivement, le qualificatif d'horreur ne lui convient pas tout à fait, mais en tout cas, il y a quand même cette volonté de déranger, de faire peur, de dégoûter aussi parfois, mais tout en s'amusant, il y a un petit côté aussi de, finalement, de metteur en scène qui regarde son public. Enfin, voilà, il aime observer les sensations, il aime créer des sensations auprès des gens. Et effectivement, on a toujours finalement, on retombe sur nos pattes à la fin de chaque chapitre. C'est plus sur la longueur. On lui reproche parfois sur les séries d'être un peu moins efficace parce qu'effectivement, il est plutôt sur une chute à court terme qui fonctionne très bien. Là, les histoires du début qui nous font rentrer dans le sujet, elles sont très efficaces justement pour ça. Et en trois scènes ou en trois situations, on a compris le concept. On ne nous présente pas très longuement l'héroïne, voire même on oublie aussi ses héros. C'est vraiment souvent la situation, la chute.
Il n'y en a pas souvent même d'ailleurs.
Absolument. C'est vraiment plus effectivement cette petite critique acerbe, la petite acidité qui reste à la fin de l'histoire.
Sur la narration, Fausto, je voulais revenir dessus. Est-ce que vous avez... On emploie souvent le terme de surréaliste quand on parle par exemple de cet auteur. On le rapproche parfois de l'Oulipo, qui est voilà, ce genre littéraire. Est-ce que vous retrouvez ça ? Est-ce qu'il y a ce côté arti-surréaliste dans ces textes-là ?
Je trouve pas trop, en fait, moi. Par ailleurs, je pense pas qu'il soit particulièrement conscient de ça. Moi, ce que j'ai remarqué aussi chez lui, c'est sa manière de partir d'un détail qui relève quasiment de l'intime et puis, en fait, d'ouvrir le scope de son histoire pour, au final, avoir un panorama épique, quoi. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une case où, littéralement, pour citer une histoire courte du volume 2, on voit un personnage qui a une couche, voilà, pour terminer sur... l'explosion de la planète. Enfin, donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est cette espèce d'apocalypse graduée, en fait, qui part d'une situation absolument anodine, absolument quotidienne, et qui finit effectivement par basculer dans le surréalisme, mais je pense pas que ce soit vraiment un procédé dont il a parfaitement conscience.
À qui il s'adresse cet ouvrage, Pauline ?
C'est à toute la famille.
C'est compliqué à dire. Je pense qu'il faut... en fait, c'est pas pour tous les lecteurs. En tout cas, c'est pour les gens curieux. C'est pour les gens aussi qui aiment voilà, les sensations visuelles, vraiment. C'est pas le premier livre que je recommanderais finalement à quelqu'un qui veut se mettre au manga. Je pense qu'il faut un petit peu... Il faut un petit peu se lancer. Peut-être, si on veut parler de gags, il faudra peut-être plutôt aller sur du Akira Toriyama, du Dr. Slump avant.
Qui est un de ses mangas préférés, d'ailleurs, Dr. Slump.
Qu'il cite volontiers. Il cite beaucoup de mangaka de gags. En revanche, si on veut commencer à s'intéresser à Shintaro Kago, parce qu'il y a énormément d'illustrations qu'on connaît de lui, mais qu'on veut un petit peu plus s'appesantir sur sa grammaire visuelle et sa grammaire du manga, je trouve que c'est un très bon ouvrage.
Peut-être juste une dernière question, Fausto. Le titre s'appelle Démentia. Alors évidemment, on pense à la démence sénile des personnes âgées, mais est-ce que c'est uniquement cette démence-là qui est traitée dans les deux tomes ?
Ah, pour moi, c'est une démence très clairement collective. C'est vraiment ce dont parle le manga, ouais.
Démentia 21 de Kago Shintaro, apparu aux éditions Huber. Et je signale aussi la parution récente de Dommage cérébral du même auteur, toujours chez Huber Éditions.